Attends, comme on est jeudi dans l'avant-match, ben on s'entretient avec Éric Lavigne. C'est le coin du coach. Allez, Éric, comment vas-tu?
Oh, très bien, merci, Dan.
Éric, des matchs hors concours, on en a eu un à Québec lundi, j'étais là. Je vais aller voir les Leafs la semaine prochaine en espérant que Mike Babcock va pouvoir insérer dans sa formation quelques bons jeunes joueurs parce qu'ils en ont plusieurs. Les matchs hors concours pour un coach comme toi, est-ce que tu disais que c'était un passage obligé ou t'accordais quand même une certaine importance?
Malheureusement, Dan, je pense de plus en plus c'est un passage obligé. Quand tu regardes les camps d'entraînement aujourd'hui, les camps sont très longs. C'est beaucoup de matchs, je pense, pour faire des revenus parce que les joueurs sont pas payés pendant ce temps-là. C'est pas pour rien qu'ils viennent à Québec. C'est des revenus différents que parce qu'on a vu qu'à Montréal, hier même, c'était pas rempli.
Ouais.
Où je dis que c'est plus difficile puis que c'est un peu inutile, à mon avis, c'est que aujourd'hui, on réalise avec la masse salariale, avec le plafond salarial, le nombre de contrats signés. Quand tu arrives, tu as tes premiers réunions d'entraîneur avec la direction. Quand tu ouvres le tableau et tu fais ta projection, je suis obligé de te dire que Dan, l'équipe est pas mal faite d'avance.
Qu'il y a pas,
y a pas vraiment de place dans l'alignement. Je te dirais, il va avoir de la place quand il se met à avoir des blessés. Autrement, avec les signatures de joueurs autonomes qui viennent remplir les trous qui te restent, les contrats à un volet, les gars ont des contrats à un volet que tu peux même pas les bouger. Puis quand on sait qu'on les laisse aller, ces waivers, il y a pas grand joueur qui sont récupérés. C'est que la plupart des gars qui ont un contrat, normalement, vont faire l'équipe. C'est que les vraies surprises, t'en vois pas trop. Ce qui fait en sorte que les camps d'entraînement, je me rappelle que les joueurs sont, les vétérans ont hâte que ça finisse. Ils ont hâte de passer aux choses sérieuses. Puis un autre des problèmes, c'est l'arbitrage. Ils veulent passer le message à chaque fois.
Ben oui, ils font des tests, mais.
Très sévère.
Ben oui, c'est plate à regarder, ça?
Ben, c'est pas juste plate, Dan. Comme coach, là, quand tu veux évaluer les joueurs, qu'est-ce que tu fais avec des gars toujours jouer 5 contre 3 puis 5 contre 4? C'est pas de même que tu évalues ton équipe. Tu veux évaluer tes joueurs, surtout les nouveaux qui veulent se faire une place. C'est rare que c'est des gars de power play.
C'est vrai.
C'est que c'est, tu vas évaluer tes gars sur quoi? Ils jouent 3, 4, peut-être 5 chiffres à 5 contre 5. Donc, tu peux pas les évaluer réellement. Ce qui m'amène à dire que très souvent, je pense que l'équipe, est, ben pas très souvent, c'est la réalité. Les Canadiens, ils ont pas essayé de faire l'équipe, tous les deux ensemble à soir, puis on va être quasiment un ou deux joueurs près, on se trompera pas ben. Il n'a pas trop de surprises.
Est-ce que tu serais pour un 10 jours de pratique, 2 games hors concours, aller-retour, mettons, contre les Sénateurs, puis on commence ça tout de suite?
Ben, j'en mets, au lieu de 8, j'en mettrais 4 à 5.
Okay.
Je mettrais un intervalle entre chacune ou ce que je laisse du temps pour pratiquer.
Okay.
Et tu seras pas obligé de garder 60 gars au camp. C'est pas vrai que tu as besoin de 60 joueurs à ton camp d'entraînement, là. C'est que là, tu en gardes beaucoup parce que tu joues beaucoup de matchs d'un court laps de temps. Mais quand tu arrives puis que tu dis je joue, comme là, tu viens de le dire tantôt, je t'entendais dire que c'est le line-up. Ce soir, c'est le line-up qu'il y avait lundi à Québec.
À peu près, autour de.
À quelques joueurs près, il n'y a pas grande différence. C'est-tu vraiment nécessaire ou un coach aurait. Je peux te dire que Claude Julien va avoir pas mal plus le goût aux 2-3 dernières games où là, il va pouvoir faire son vrai alignement avec ses. Oui, ça ressemble à ses trios, mais avec un temps, un vrai temps de jeu qui va ressembler à ce qu'il va avoir dans la saison régulière. Parce que quand je regarde le camp, là, présentement, c'est quoi les surprises qu'on peut avoir? Je vois le jeune Mété à défense qui est mis en évidence. Mais entre toi et moi, d'après moi, c'est-tu pour lui donner une vraie chance? Moi, j'ai l'impression qu'on le met dans la vitrine. On est en train de négocier un échange avec Duchesne en essayant de donner Galchenyuk, puis Mété, puis il faut le montrer. Quand est-ce qu'on avait entendu parler du gars-là, puis d'un coup, il jouait avec Weber? T'sais, c'est plus des décisions de même qui se prennent quand t'arrives à un camp qu'un DG, qu'une organisation va te dire « Essaye de mettre tel joueur en évidence, place-le peut-être qu'on puisse le bouger puis qu'on puisse l'échanger. » Parce que des vraies surprises, je m'excuse, à moins que tu m'en nommes, j'en vois pas beaucoup.
Non, il y en a pas. Simon Gagné, hier, dans mon émission, disait « Les vétérans, on n'aime pas ça, les matchs hors concours. » Est-ce que t'as l'impression que Carey Price est là ce soir pour un deuxième match parce que c'est à Montréal, parce que les gens ont payé des billets de saison, puis ce serait surprenant de le voir prendre l'autobus ou l'avion avec l'équipe pour d'autres matchs hors concours pour la suite des choses?
Je suis convaincu que tu as raison.
Okay.
Je suis convaincu que tu as raison, dans le sens que hier, on y a fait jouer un demi-match. parce qu'on revient à ce qu'on a joué la semaine dernière, on peut-tu le faire gauler deux soirs en ligne?
Oui,
oui, parce que c'est deux fois une demi.
Oui, c'est ça, exact. Ouais.
Mais ça, oui, c'est clair qu'on veut faire plaisir à ses partisans parce que on l'a vu, là, les billets baissent pas de prix parce que c'est un match hors concours. Hein. C'est les mêmes prix, c'est que tu veux voir les meilleurs, tu veux voir Price, puis les gens à Montréal, puis ça, je comprends le Canadien de le faire, là. Tu veux qu'il se sente rapidement bien dans son environnement, puis qu'il retrouve ses repères. Surtout un gardien, c'est quand c'est ton joueur vedette, tu choisis les matchs que tu vas y donner.
OK, partout où tu es passé, dans le coaching, peu importe le niveau, les matchs en concours, c'était secondaire, ou il y a des niveaux où c'est plus important que d'autres?
Bien, au niveau junior, il y a plus... C'est plus important parce que c'est des cycles, hein. Tu perds toujours 6, 7, 8 joueurs à chaque année. Tandis que dans le pro, ça se peut que tu n'aies pas de place dans ton line-up. On est arrivé au camp d'entraînement du Canadien. Les 3 ans que j'ai fait le camp d'entraînement du Canadien, l'équipe était quasiment faite. On pouvait connaître le line-up. C'était de donner de l'expérience aux autres, puis de leur donner le goût, puis de remplir assez de gilets pour jouer des matchs hors concours. C'est que dans le junior, c'est une réalité qui est différente. Le camp d'entraînement prend plus d'importance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on cherche une formule idéale. Il est-tu trop long, pas assez long, en fonction du début de l'école? C'est que oui, tu peux créer des surprises dans le junior. Pour une raison, en partant, c'est qu'un jeune qui arrive à 15-16 ans, qui est repêché, peut avoir une poussée importante au niveau de son physique, qui va faire en sorte qu'il n'est plus le même gars. Tu as l'impression de ne plus parler au même jeune quand il arrive au camp. Il gagne en maturité. Mais c'est surtout le fait que tu as 5, 6, 7 postes de disponibles tout le temps à chacune des années qui fait que oui, là, il faut que tu en crées des surprises. Il faut que tu donnes la chance aux jeunes de se faire voir. Mais dans le pro, malheureusement, aujourd'hui, c'est la convention collective des joueurs. C'est le nombre de matchs que tu es obligé de jouer. Ils ont d'ailleurs été obligés de réglementer combien de joueurs on met à chaque match. C'est que c'est... Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'un camp pro, c'est trop long, puis on devrait commencer la saison plus de bonheur, puis finir plus de bonheur avant Saint-Jean-Baptiste. Mais en même temps, c'est dans le junior, ça reste plus qu'important.
Éric, une vraie vedette à Montréal depuis Patrick Roy, il n'y en a pas eu beaucoup. Vincent Danfousse et Pierre Turgeon ont bien joué. Puis José Théodore a été une vedette peut-être un an et demi. Mais est-ce que tu as l'impression que Drouin a... toute la pression partagée, je dirais, avec Price. Là, est-ce que c'est Drouin qui a le plus de pression, je veux dire, parmi les attaquants et défenseurs du Canadien pour la prochaine saison?
Aucun doute. Aucun doute. Parce que Price, oui, par son salaire et par le statut qu'il a, mais l'arrivée de Drouin, qui est un Québécois, qui est un joueur explosif, qui est un joueur offensif, mais je suis pas inquiet, moi, pour Drouin. T'es capable de dealer la pression quand t'as 20 ans, t'es capable de faire la grève. Quand t'as osé faire la grève à 20-21 ans, dire « je m'en vais chez nous parce que vous me jouez pas assez », c'est parce que t'es capable d'y aller avec la pression, parce que tu sais que tu vas revenir un jour, puis il va falloir que tu livres la marchandise. C'est ce qu'il a fait à Tampa Bay. C'est que de revenir à Montréal, dans un milieu qu'il connaît, mais c'est un gars qui a toujours été capable de faire face à la pression. Il l'a fait à Halifax dès qu'il a eu 16 ans. À 16, 17, 18 ans, il a toujours livré la marchandise. Je pense que la seule fois où je l'ai vu avoir une baisse de régime puis que j'ai eu des doutes, c'était avec l'équipe canadienne au championnat du monde qui avait une attitude, je trouvais, qui était un petit peu frustrée quand l'équipe fonctionnait pas. Mais au-delà de ça, il est arrivé dans le pro, il a fait sa place. Il était capable de mettre ses culottes, puis je conseille pas ça à personne, là.
Non, je comprends.
Ça prend du fond. Il faut même être un peu effronté, là, oui. Pour ce qu'il a fait. Mais c'est ce que je pense qu'il va faire, qu'il va réussir à Montréal, puis que je suis pas inquiète pour lui face à la pression.
OK. Hier, il a joué au centre, parce qu'on n'est pas convaincu que Galchenyuk est un joueur de centre, probablement. C'est ce qu'on a affirmé au club de golf Laval sur le lac quand on a lancé la saison. Hier, il joue au centre. Éric, il prend, mettons, les 8 premières mises en jeu, il en gagne pas une. Et moi, j'ai l'impression que dans la Ligue nationale, c'est important. Je regarde aller Patrice Bergeron, puis j'ai l'impression que ça te donne une position avantageuse sur la patinoire. C'est important, un joueur de centre qui gagne des mises en jeu. Mais hier, j'écoutais les gens dire, oh, Drouin, c'est correct, lui, c'est pas grave s'il gagne pas.
Là, c'est pas grave parce qu'on est en game hors concours.
OK.
Faudrait pas le comparer à Bergeron parce que Bergeron.
Non, c'est le meilleur.
C'est le top de la Ligue.
T'as raison.
Ce que je veux te dire par rapport aux joueurs de centre, moi, j'ai pas de problème à ce qu'ils jouent au centre. Parce qu'au pire, on fera prendre les mises au jeu par quelqu'un d'autre. Puis on le laissera là, le temps qu'on sorte de la zone. Mais j'ai le goût de dire que moi, pour moi, joueur de centre, là, ça prend un QI hockey. Puis son IQ hockey, son intelligence de joueur de hockey, Drouin, c'est un exceptionnel. C'est une coche en haut des autres.
C'est ce qui manque à Galchenyuk, Éric? C'est ce qui manque à Galchenyuk pour jouer au centre?
c'est le problème de Galchenyuk, à mon avis. Moi, je trouve que Galchenyuk, c'est un gars qui a pas de QI hockey. C'est un joueur d'instinct. D'ailleurs, je suis sévère, moi, envers Galchenyuk, dans le sens que ses meilleurs moments dans la Ligue nationale, il les a vécu quand le Canadien est éliminé en deuxième moitié de saison, où il y avait plus, on coachait plus vraiment l'équipe, dans le sens que on les laissait aller, ça avait plus d'impact dans le classement. Et là, sur une glace où tu étais moins obligé de jouer dans un cadre où le coach mettait beaucoup d'importance à la structure, là, il était performant. Mais quand la vraie game commence, puis que c'est serré, puis qu'il y a un objectif de victoire au bout de la ligne, tu peux pas juste improviser. Puis moi, je trouve que Galchenyuk, il improvise sa glace, puis son QI. Je dis pas que c'est pas un bon joueur, mais son intelligence, son QI hockey, à mon avis, fait défaut. Puis c'est ça sa faiblesse. Puis c'est ça pour laquelle on a de la misère à le jouer au centre, parce qu'il s'ajuste pas. Tandis que Drouin, moi, je pense que c'est un gars tellement... Ça, c'est un QI hockey extraordinaire. Tu sais, Mike Ribeiro, là, c'était pas le plus grand joueur de centre au monde en termes de force pour les face-off puis tout ça, mais son QI hockey était tellement élevé qu'il a joué au-dessus de 1000 matchs dans la Ligue nationale. Et quand ton QI hockey est là, tes petites faiblesses sont tellement compensées par ton intelligence, tu sais où te placer, tu sais où anticiper. Ça, c'est dur d'enseigner à quelqu'un comment anticiper. Puis c'est dur d'enseigner à quelqu'un d'avoir du pif puis de se douter. Gretzky était si bon, pourquoi? On dirait qu'il devinait tout le temps jusqu'à la rondelle. Crosby est pareil. Mais ces joueurs-là, c'est une intelligence supérieure. C'est ce que j'appelle le QI hockey. C'est ce qui fait que pour moi, Drouin, ils vont y montrer à gagner des mises au jeu. Ils vont être contents s'ils en gagnent 45%. Puis s'il n'est pas capable, ben ils vont envoyer un autre gars pour le face-off. Ils vont le mettre à droite. Puis un coup qu'on sera sorti, il retombera au centre. Mais il va être un plus canadien à cette position-là. Il n'y a pas de doute pour moi.
OK. Plus il y a de l'espace sur la patinoire, plus il va être capable d'aider son équipe. Est-ce que je comprends de ton explication, Éric, que quand tu parles de QI hockey, évidemment, là, je pousse ta réflexion. Si un jour tu apprenais que Kenville à Chicago a utilisé Patrick Kane... deux games au centre, tu ne serais pas surpris, justement parce que lui a un QI hockey au-delà de la moyenne?
T'as absolument raison. T'as absolument raison. Puis c'est ce qui fait la différence dans ces joueurs-là. C'est des joueurs d'exception. C'est des joueurs qui comprennent la game à cause de leur quotient intellectuel de hockey.
Okay.
C'est des gars qui devinent ce qui se passe sur la glace. C'est des gars, tu te dis, comment ça qui ont réussi à trouver le trou? Comment ça qu'ils ont réussi à se placer là? Comment il a fait pour anticiper que l'autre équipe fera une sortie de zone de même? Ça s'enseigne pas. Ça ne s'enseigne pas, c'est inné. Oui, tu peux l'améliorer en faisant beaucoup de vidéos, mais l'instinct, c'est à la glace. Ce qui fait en sorte que l'exemple que tu donnes à Chicago est parfait. Le coach est capable de faire, de dire à un moment donné, je le mets à droite, à gauche, puis hop, je suis pas gêné de le faire jouer au centre, parce que je sais qu'il comprend tellement la game, puis c'est ça qui est important.
OK, t'as coaché beaucoup d'équipes de hockey, mais t'as joué puis t'as dirigé aussi au baseball. Je vais faire un parallèle, puis dis-moi si ça a de l'allure. On dit tout le temps que le hockey, le joueur le plus important, ou la position clé, c'est le gardien de but, parfait. Au baseball, on dit que c'est le lanceur. Je t'écoute parler de QI hockey. Dirais-tu que le joueur de centre ou hockey, c'est l'équivalent de l'arrêt-court au baseball?
T'es en plein dedans. On s'est pas parlé, le monde va penser qu'on a arrangé notre entrevue. C'est exactement pour ça que je pense exactement comme toi, que souvent le joueur d'arrêt-court, c'est ton joueur le plus intelligent au baseball.
OK.
Lui, t'as un catcher, un receveur qui va diriger le jeu, mais qui va avoir à être bien dirigé avec son lanceur. C'est un duo. Mais souvent, pour moi, le joueur le plus intelligent va se retrouver au champ centre puis à l'arrêt-court. L'arrêt-court, c'est un peu le chef d'orchestre. Puis ce que tu viens de dire par le parallèle versus le hockey, je suis 100% d'accord avec ce que tu avances là.
Parfait. C'est intéressant sur Jonathan Drouin parce que je suis convaincu que, avant que tu parles de QI hockey ce soir, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont regardé la game hier et qui se sont dit... Même des partisans. Tu connais les partisans du Canadien autant que moi. Tu as des chums qui sont partisans du Canadien, puis des fois, tu as de la misère à y suivre, mais tu veux pas qu'ils changent d'équipe parce que ça va venir plate autour de nous si on n'a plus de partisans du Canadien. Mais Éric, si les gens ont regardé le match hier, puis là, ils ont dit, hey, 0 à 8, les 8 premières mises en jeu, il s'en va où? Lui, il est pas gros physiquement non plus. Il se fatiguerait pas moins de jouer à l'aile. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui regardaient le match d'hier, premier match dans l'uniforme du Canadien, puis qui se disaient, Drouin au centre, ouais, pas sûr finalement.
Mais quand on décortique la game de hockey, Dan, puis qu'on se pose la question, qu'est-ce que fait un joueur de centre? Prenons vraiment l'évaluation de c'est quoi le rôle du joueur de centre. C'est quoi la différence entre jouer au centre et à l'aile pour Jonathan Drouin? Parce qu'un coup qui tombe en territoire offensif, il peut se promener autant est-ouest que nord-sud.
Il y a plus de place.
Il va
aussi
diriger dans les espaces libres. C'est ça la force de Drouin.
Okay.
La vraie réalité d'un joueur de centre, où là, on peut dire un joueur de centre est plus faible, c'est quand va arriver dans ta zone de dire, es-tu capable d'aller jouer dans le bas de la zone? Es-tu capable de bien venir jouer en support au défenseur? Es-tu capable de bien se positionner dans l'enclave s'il voit qu'il y a déjà un de ses chums qui travaille plus bas? C'est que le joueur de centre, okay, pour moi, c'est souvent le cerveau de ton trio. Mais le cerveau de ton trio, il va savoir où aller se placer dans chacune des zones. C'est que si le seul problème de Drouin, c'est de gagner mise au jeu, mais passer du temps fou à y montrer à gagner mise au jeu, Kirk Muller est là, Dan Lacroix est là, il y a des gars qui vont travailler avec lui pour travailler mise au jeu.
Parfait.
Puis, comme je te disais, à court, avec un pourcentage qui va approcher le 50%, ils vont être contents. Mais le fait qu'ils sachent où aller dans les trois zones, moi, je pense qu'il faut rassurer tout le monde puis dire, laissez son intelligence parler, puis ça va faire en sorte qu'au bout de la ligne, là, il va être dominant sans aucun problème.
Parfait, un gros merci, Eric.
C'est moi qui te remercie. Salut, Dan.
Bonne soirée. Éric Lavigne, le coin du coach, chaque jeudi dans l'avant-match.